L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore une fois autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques avec notre invitée, Marie Perpétue Mukulu. Bonjour sœur.
Bonjour frère.
Merci d'avoir répondu à cette invitation. Que le Seigneur te bénisse, qui te rende toute cette grâce au centuple.
Oui, je t'en prie, c'est une grâce pour moi aussi d'être là, à l'inviter, répondre à cette invitation, surtout de parler à des multiples bien-aimés frères et sœurs en Christ qui nous suivent.
D'accord. Nous sommes toujours en train de partager sur le thème « Les disciples et la souffrance ». C'est un thème qui est tiré du livre que tu as écrit avec le révérend pasteur Sita Luemba, que nous saluons grandement, que le Seigneur le bénisse, lui et son ministère. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi encore une fois pour entendre ta parole, pour entendre ton messager, pour entendre la servante que tu t'es choisie. Le thème, le disciple et la souffrance. Bénis ta servante, Père. Bénis le message qui va sortir de sa bouche. Cher Saint-Esprit, utilise-la avec puissance. Parle. Guéris, délivre, redresse. Il y a des hommes et des femmes qui sont découragés, abattus dans le monde, qui traversent des souffrances. Père, nous voulons que tu leur fasses du bien. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen.
Le disciple et la souffrance. Nous avons défini la souffrance comme étant le fait qu'une personne ressente. Plutôt disons ceci, la souffrance, c'est ce que ressent une personne soumise à la douleur ou à l'affliction. Elle peut être d'ordre physique, moral, émotionnel. Dans 2 Timothée 4, verset 5. 2 Timothée 4, verset 5. Paul recommande ceci à Timothée. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Paul dit à son fils dans la foi, « Mon enfant que j'ai enfanté en Jésus-Christ. » 2 Timothée 4, verset 5. « Toi, Timothée, mon fils que j'ai enfanté en Christ, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. » C'est ce dont nous sommes en train de parler, la souffrance. « Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. » Perpétue. Paul nous dit qu'on peut être pasteur, évangéliste, prophète, docteur, apôtre, pape, souverain, sacrificateur, roi, seigneur. Nous sommes appelés à traverser aussi la souffrance. Paul dit à Timothée, supporte la souffrance. Dans le deuxième chapitre sur le disciple et la souffrance, on nous dit ceci, que ce chapitre, vous l'avez écrit dans le but de comprendre que devant la souffrance, les êtres humains réagissent différemment. Sœur, j'aimerais que tu me parles un peu plus de ça, que tu nous expliques un peu. Pourquoi, comment, beaucoup, les mêmes êtres humains, face aux mêmes souffrances, réagissent différemment.
Oui, chacun de nous le sait, chacun de nous peut être témoin de cette phrase. Nous sommes issus de familles. Et nous savons que dans chacune de nos familles, chacun des enfants réagit différemment face à une souffrance donnée. Quand nous grandissions, par exemple, je peux avoir faim au même moment que mon frère ou ma sœur. Elle ou lui peut pleurer, alors que moi, j'irai dormir. Ou par exemple, moi je vais pleurer et lui va dormir. Les êtres humains sont différents les uns des autres. Et les êtres humains ont grandi tout en subissant des influences différentes aussi. C'est ce qui fait que chacun de nous a une personnalité, si tu permets la tautologie, tout à fait personnelle. Aussi, les êtres humains tout au long de leur vie, ont connu beaucoup de circonstances, ont fait des études différentes, ont vécu à des endroits différents, qui aient une certaine influence dans leur vie. Et cela a fait qu'il y ait des gens, par exemple, qui réagissent face à une souffrance par la négation. C'est-à-dire, ils nient que la souffrance existe. La souffrance, selon ce type de gens, c'est une illusion. Il n'y a pas de souffrance. En tout cas, la souffrance n'a pas une base réelle. D'autres encore préfèrent se résigner. Ils disent, par exemple, que tout ce qui arrive a été déterminé d'avance par la volonté de Dieu. Donc, ils acceptent la souffrance comme étant la volonté de Dieu et se soumettent à cette souffrance-là. Alors, ils disent, par exemple, que la souffrance fait partie de la vie humaine, donc il faut l'accepter. Par exemple, quelqu'un qui est stoïque, tu peux le poignarder ou tu le tords, il a mal, mais il supporte, il trouve ça normal. Il y a d'autres personnes qui trouvent que la souffrance fait partie de mérite. Tout ce qu'on endure comme souffrance, c'est ce qu'on mérite. C'est-à-dire, nos souffrances ont été provoquées par des actes que nous avons posés dans notre vie passée.
Donc, en fait, ils sont en train de dire que si je suis, par exemple, persécuté, c'est pas, je le mérite. J'ai forcément fait quelque chose de mal.
Voilà.
Et c'est un peu l'attitude de celui qui, dès qu'on le persécute, il va demander pardon à Dieu.
Oui.
Non, pardonne-moi. Bon, je ne sais pas c'est quoi, c'est quand est-ce que j'ai péché exactement, mais pardonne-moi puisque tu permets cette situation.
Oui, alors quelqu'un qui marche dans ces cas de mérite dira, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis sûr que c'est moi qui, d'une manière ou d'une autre, ai provoqué cette souffrance. Alors que peut-être c'est pas lui. Peut-être c'est juste pour nous corriger ou pour nous éduquer. En tout cas, les souffrances ne sont pas forcément issues des erreurs que nous avons commises dans le passé. Il y a d'autres aussi, les épicuriens, par exemple, qui pourraient, les souffrances sont inévitables, ils ne les nient pas. Mais, ils encouragent les gens à ignorer ces réalités et à jouir le plus possible de leur vie. Donc, ce sont ceux qui disent, par exemple, mangeons et buvons et soyons errés. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Donc, nous avons tout intérêt à jouer de notre vie.
Donc, ne faisons pas attention à
la
souffrance.
Non. Il faut faire comme si la souffrance n'existait pas. Alors, ce sont de façon un peu curieuse de réagir. On peut se demander, mais comment une personne, un être humain peut arriver à nier une souffrance, à réagir en oubliant, en ignorant une souffrance. Mais si la personne en elle-même à accepter ce type de souffrance, cette façon de réagir, alors il se sent à l'aise dans cette souffrance. Il y a d'autres personnes qui préfèrent se plaindre. Des plaintes chaque fois. Oh non, moi je suis née dans la souffrance, j'ai grandi. Donc, il reste là. Il ne veut pas réfléchir pourquoi il souffre, comment s'en sortir, quelles leçons tirer de cette souffrance. Non, mais ce sont des gens, ils sont là, ils se plaignent, et ils tournent en rond, tu vois.
Ceci me fait penser un peu au... On va le lire, tu as cité ça dans Ecclésiaste 14. Mm-hmm. Au jour du bonheur, sois heureux.
Ah.
Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Dieu a fait l'un et l'autre. Dieu a fait le bonheur, la souffrance.
Ouais.
Jésus, du haut de la croix, disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, il reconnaissait qu'il était en train de traverser une période de souffrance.
Ouais.
Alors, je pense que ce genre d'attitude, ignorer la souffrance, ou bien ce genre d'attitude de plaintif, on n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là pour faire du mal, mais on est là pour vous aider à comprendre le sujet, comment Dieu voit le sujet sur la souffrance. Moi, je pense, et je suis tout à fait d'accord avec vous, avec toi, et le pasteur Sita, ce ne sont pas des attitudes qui sont chrétiennes. Si on les regarde, on va dans les extrêmes. Celui qui nie tout, et celui qui passe son temps à se plaindre, ce n'est pas cette attitude que le Seigneur attend de nous. Alors, dis-moi, Perpétue, selon toi, qu'est-ce que Dieu attend de nous lorsque nous traversons la souffrance ?
Nous savons que la souffrance existe. La Bible même le reconnaît. La Bible appelle Jésus l'homme de souffrance, selon Ésaïe 53.
Alors, il y a homme, une certaine... homme habitué à la souffrance, voilà. Homme de douleur. J'aimerais qu'on le lise avant que, nous passions à Ésaïe 53, pour être le plus biblique possible. Ésaïe 53, je l'ai déjà presque trouvé. Voilà, Ésaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus est appelé dans Ésaïe 53 l'homme de douleur habitué à la souffrance. Donc, chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, qui puisse arriver pendant une période de notre vie, la souffrance. Mais comment? Comment nous allons réagir? Sœur, dis-nous, comment nous allons réagir face à la souffrance?
Nous voyons, nous pouvons nous référer à comment Jésus a réagi face à la souffrance. Et si la Bible nous dit qu'il était homme de douleur, il était habitué à la souffrance, nous pouvons dire que c'est aussi parce que Jésus a subi la souffrance depuis son enfance. Déjà quand il était bébé, Hérode a tenté à plusieurs reprises à le détruire.
À le tuer, tout à fait.
Et ses parents devraient s'arranger pour fuir avec le bébé. Je crois que ce bébé était traumatisé, je crois. Je crois vraiment qu'il était traumatisé et qu'il souffrait. Et déjà, quand il était enfant, son père n'était pas du tout riche. En fait, son père,
son père adoptif.
C'était un menuisier. Alors, nous pouvons nous mettre à la place du fils d'un menuisier qui peut-être observe le fils d'un fonctionnaire ou d'un banquier. En tout cas, ils n'ont pas une vie identique. Je crois qu'il y a une marge de souffrance qu'il a endurée. Aussi, nous avons dit la fois passée qu'il était 100% Dieu, 100% homme. Moi, je me suis toujours dit, il m'arrive de commettre des erreurs, de pécher. Et je sens que mon être intérieur a du mal à accepter ces péchés-là. Je sens une certaine culpabilité jusqu'à ce que je vais me repentir. Alors, je me suis toujours demandé comment Jésus supportait tous nos péchés, passés futurs, passés présents, futurs sur la croix. Saint. Moi qui suis être humain, conçu, né dans le péché, l'Esprit de Dieu qui est en moi souffre, n'arrive pas à collaborer avec le péché. Mais Jésus, Dieu, sûrement qu'il a souffert atrocement de vivre le péché, de voir les gens pécher, mais surtout de porter tous ses péchés avec lui. Aussi, c'est là, nous savons que tout au début, quand Dieu nous a créés, tout était bon. Les souffrances, on l'a dit la fois passée, font partie de conséquences du péché. C'est pourquoi Jésus a lutté contre le péché qui est la racine de souffrance. Jésus, face aux souffrances, avant d'arriver à la racine, nous le voyons combattre les souffrances en guérissant le malade. Il sait que la maladie, en tout cas, ça crée des douleurs. Ça fait mal. Il guérit le malade. Il voit quelqu'un qui est possédé par les démons. Il est conscient que cette personne souffre. Jésus chasse les démons. Il dit qu'il est venu libérer les captifs. Parce qu'il sait que la captivité,
c'est pas une bonne chose.
C'est pas une bonne chose. Ça fait souffrir. Jésus a combattu le souffrance en posant de bonnes œuvres, mais il a couronné sa lutte contre le souffrance en mourant sur la croix.
Écoute ça. J'aimerais parler un peu du ministère de Jésus face aux souffrances. Prenons juste un exemple. Marc 5. Dans Marc 5, c'est l'histoire de la femme à la perte de sang. Marc 5, verset 1, une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Le verset qui nous intéresse plus, c'est le verset 26. Elle avait beaucoup souffert. Le péché a emmené beaucoup de souffrances dans le monde. Il y a même un verset qui dit, Jésus est venu ôter le péché. Et d'après certains théologiens, dans son sens grec, parle de l'image d'arracher un arbre avec sa racine. Il ne faut pas que les racines restent. Ça part avec ses racines.
Déraciner.
Voilà, déraciner le péché. Et cette femme avait beaucoup souffert. Donc la souffrance sans Christ, je vais dire, la souffrance sans Christ, pour moi, n'a que seul but de tourner les yeux vers Jésus-Christ. Tu sais, cette femme, je suis sûr qu'elle avait déjà entendu parler du ministère de Jésus, quelque part. Mais elle ne faisait pas attention à lui, parce qu'elle avait encore de l'espoir que l'homme pouvait apporter une solution à son problème. Elle a vu le meilleur médecin de Chine, elle a vu le meilleur médecin de Belgique, elle a vu le meilleur médecin de l'Inde. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont en Inde. Elle a vu les meilleurs médecins d'Afrique du Sud, d'Amérique latine. Pas de solution. Mais son argent partait dans un sens décroissant. Si elle était mariée, tu imagines, elle est obligée de se séparer de son mari. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était clair. Une femme qui avait des pertes de sang était considérée comme étant impure pendant plusieurs jours. Alors tu imagines pendant 12 ans, chaque jour. Et puis c'est une grâce qu'elle ait vécue parce qu'elle aurait pu se vider de son sang et puis mourir.
Ouais.
C'est une grâce.
Ça a beaucoup souffert, ça.
Souffrance sans Christ, ce n'est pas une bonne chose. Et je prie Dieu, enfin je remercie Dieu, pardon, que cette femme n'ait pas rencontré ces types d'hommes et de femmes que dont nous avons parlé qui disent, bon, la souffrance, vois-le seulement du côté que certainement tu as péché. Vois-le du côté seulement, bon, c'est pas grave.
C'est un fait normal.
C'est un fait normal. Fait... Oui, comment je vais faire un fait normal? Je suis loin de mon mari, je suis loin de mes enfants, je suis banni de la société.
Fais comme si tu souffrais pas du tout.
Non, la souffrance n'est pas une bonne chose. Pour moi, quelqu'un qui souffre sans Christ, on va dire qu'il souffre doublement.
Exactement.
Doublement, parce que d'abord, il a le péché qui n'arrive pas à s'en débarrasser. Et puis, il y a cette attaque de l'ennemi qui va le minimiser. Elle pouvait même se sentir complexée. Elle pouvait même se sentir...
Je crois qu'elle se sentait complexée.
Sûrement.
Elle ne pouvait même pas accéder au temple. Alors, tu vois, j'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire, cette comparaison de la souffrance à l'arbre. Je dirais, par exemple, que une souffrance, même dans la vie du chrétien, quand elle n'est pas vue en attachement avec Christ, c'est une souffrance qui est pleine, qui est totale, qui est complète. Pourquoi? Parce que les chrétiens, à mon humble avis, devraient réaliser que sa souffrance ou ses souffrances n'ont plus de racines. Comme les racines de toutes les souffrances ont été détruites par Jésus-Christ, normalement, les souffrances du chrétien n'ont plus de racines.
D'accord.
Alors, c'est question de lever les yeux vers le Maître et réclamer la paix, réclamer la compréhension de ce qu'est cette souffrance-là. Parce que si ce ne sont pas les racines, c'est alors soit le tronc, soit le branche, soit les feuilles, soit le fruit.
D'accord.
Alors, peut-être que c'est une branche qu'on est en train d'émonder, on l'a dit tantôt, parce qu'on veut que l'arbre produise plus. Ou ce ne sont que des feuilles. Parce que si la cause première, si nous admettons que la cause première de toutes nos souffrances, c'est le péché, et si nous sommes d'accord aussi du fait que Christ est venu pour mettre fin au pouvoir du péché, nous pouvons de ce fait dire que Jésus a mis fin au pouvoir de la souffrance.
C'est pour ça que, ça que Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu sais que ça m'a fait penser à ce genre de théorie. Non, si tu rencontres telle difficulté, c'est parce que ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père... Non, quand nous sommes en Christ, Nous commençons une nouvelle lignée. Bien sûr, il est vrai que le diable ne va pas nous laisser facilement. Mm-hmm. Non, il va nous combattre. Que parce que je suis devenu en Christ, non, c'est fini. Non, il y a quand même encore des problèmes qui sont... Non, nous avons commencé un nouveau départ. Et j'aime quand tu dis, nous levons les yeux vers le Seigneur et nous lui disons, je t'appartiens, Seigneur. Si tu veux que je passe par la souffrance comme une école, d'accord. Si c'est ça ta volonté, ok, je vais passer par la souffrance parce que toi aussi tu as souffert. Voilà. Paul parle même que nous complétons aux souffrances de Christ. Ouais. C'est biblique. Mais il faut éviter de dire, bon, non, c'est mon grand-père. C'est comme ça que d'autres ont commencé à fomenter même des théories. Non, je ne connais pas ton état d'âme. Tu ne peux pas venir chez moi parce que je ne sais pas, tu vas venir espionner, tu vas venir capter des informations pour me combattre la nuit. Non, 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 non. Quand on est en Christ, on est protégé par Christ, on est sous la seigneurie de Christ, on est sous la puissance de Dieu. Et si Dieu permet que nous passions par des souffrances, c'est une école.
Voilà. Ça dit que si nous levons les yeux vers le Seigneur, nous lui demandons de nous aider à comprendre nos souffrances de la même façon que lui le comprend.
Tout à fait.
Et s'il y a une leçon à tirer derrière ces souffrances. En fait, si le Seigneur nous aide à comprendre nos souffrances selon sa compréhension et tout, il va aussi nous aider à lutter contre ces souffrances-là. Il est vrai que nous pouvons hériter les souffrances de nos parents. Par exemple, la méchanceté. Si un enfant grandit auprès de parents très méchants et tout, l'enfant ne sait pas ce que c'est que pardonner. L'enfant peut copier cela. C'est pourquoi nous disons, une fois qu'on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Alors quand j'élève les yeux vers le Seigneur, normalement après ma conversion, le Seigneur me façonne. Il fait de moi une nouvelle créature. Je me remets au Christ, je dis, fais de moi la personne que tu aimerais que je sois. Il m'aide à me connaître en tant qu'être humain issu d'une famille quelconque. C'est vrai que Dieu punit jusqu'à la troisième et la quatrième génération, mais en tant qu'enfant de Dieu, je dois arriver par sa grâce à prier pour que toutes ces malédictions cessent. Parce que la Bible nous dit que Christ lui-même s'est fait malédiction pour nous. Afin selon qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que nous puissions bénéficier de bénédictions d'Abraham. Donc si je ne suis pas consciente de ces faits-là, je peux continuer à me plaindre comme si ces souffrances avaient droit de dominer ma vie à cause des péchés de mes parents et de mes grands-parents. Mais si je reconnais mon identité en Christ, je peux réclamer le bénédiction, j'ai droit à cause d'Abraham, et puis chasser de moi toute la malédiction qui pouvait s'accrocher de moi à cause des actes posés par mes grands-parents. Donc, la souffrance avec Jésus a une autre couleur. La souffrance avec Jésus, nous disons même quelque part que c'est un bénéfice.
Tout à fait.
Parce que ça nous amène à étudier, à comprendre le monde, à changer notre style de vie, à grandir dans la connaissance du Seigneur et à tendre vers la maturité spirituelle.
Ça me fait penser un peu à Joseph. J'oublierai, à chaque fois que je médite sur la souffrance, sur la persécution des chrétiens, je ne peux pas m'empêcher de penser un peu à l'histoire de Joseph.
Ouais.
Si Joseph n'était pas passé par la souffrance, je pense pas que Joseph aurait été un bon, entre guillemets, sauveur de sa famille. Parce que il serait pas devenu premier ministre en Égypte. Il a dû passer par l'esclavagisme. C'est pas quelque chose de facile.
Ouais.
Il a dû passer par l'emprisonnement. Et c'était les cas pour lesquels il est passé par l'esclavagisme, par la prison. C'était des cas injustes. Il n'avait rien fait de mal en soi. Ce n'est pas parce que je vais accuser mes frères pour toutes les mauvaises choses qu'ils rapportent pour toutes les mauvaises choses qu'ils font, parce que je rapporte ça à mon père que je mérite de devenir un esclave. Tu vois?
Oui, mais c'était une école.
C'est ça justement, c'est ça que j'étais en train de dire.
Oui.
En fait, il faisait des choses. Dieu voulait, maintenant il dit, si je le laisse comme ça, si je le laisse comme ça, il va pas faire ce pourquoi je veux, ce pourquoi je l'ai envoyé.
Mm-hmm.
Alors, je prends ses erreurs, et je lui fais comprendre d'abord que ce qu'il fait n'est pas bien, mais je vais maintenant l'enseigner à faire les choses. Je vais l'enseigner, je vais le former. Et je le fais passer d'abord par l'esclavagisme, je le fais passer par la prison. Tu sais, même quand tu lis l'histoire de Joseph, à un moment, quand il va donner les explications aux serviteurs de Pharaon, il va dire que non, qu'on l'intercède pour lui auprès de Pharaon, qu'on le libère. Il n'avait toujours pas encore compris en ce moment-là qu'il faut compter sur Dieu.
Non.
Il est dit que le monsieur est resté 2 ans
en
l'a oublié. Tu imagines, Perpétue, je te fais du bien, tu sors de prison, mais tu m'oublies pendant 2 ans. À moins que Dieu ait sa main sur toi pour que tu oublies.
Ouais.
C'était une souffrance. Mon frère, ma sœur, vous qui êtes en train de nous écouter en ce moment, peut-être que vous êtes en train de traverser des périodes de souffrance, des périodes de difficulté. Il ne faut pas vous décourager. Comme la sœur l'a dit, levez les yeux vers le Seigneur. Moi, je dirais, ajoutez, dites, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner maintenant? Un jour, le Seigneur m'avait fait comprendre que la vie avec lui, c'est une école. On ne passe pas de classe tant qu'on n'a pas encore compris la leçon. Mais on ne double pas non plus. On reste suspendu entre 2 classes. Tu n'es plus à ce niveau-ci, mais tu ne sais pas passer à ce niveau-là parce que tu n'as pas encore compris la leçon. Mon frère, ma sœur, ne renoncez pas à Christ. N'abandonnez pas le chemin de Christ. Persévérez avec le Seigneur, malgré la souffrance, malgré les difficultés. Au moment où nous sommes en train de finir cette émission, j'aimerais que la Perpétue prie pour nous, selon que l'Esprit va la conduire, simplement, qu'elle prie pour nous pendant quelques secondes.
Nous allons prier avec ceux qui ne comprennent pas leurs racines, le pourquoi de leur souffrance. Seigneur Jésus, nous comprenons que toi, tu as souffert afin de mettre fin à la souffrance. Nous croyons par la foi que ta venue au monde était pour nous sauver totalement de la souffrance. Et nous espérons qu'un jour au ciel, nous serons totalement libres de nos souffrances. Nous nous remettons entre tes mains maintenant pour que tu nous aides à vivre nos souffrances ensemble avec toi, à les tamiser par ton amour, à comprendre ce que tu veux nous enseigner par la souffrance, à nous aider à nous découvrir à travers ces souffrances. Merci de nous aider à te rester fidèles. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, le disciple et la souffrance, et toujours avec notre invité, Marie Perpétue Mukulu. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine. Amen.
L'émission Venez à Jésus vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.